Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Rédacteur en chef des pages Culture à l'Express. En fin d'émission, on retrouve votre petite mythologie d'un objet du quotidien.
Et oui, histoire de vous renvoyer la balle, puisque vous allez me demander de quoi je vais parler, c'est ça? Eh bien, un objet bien d'actualité, la raquette de tennis.
À tout à l'heure, Eric Libio. Et ce matin, comme tous les vendredis, je vous propose de prendre un peu de recul sur notre vie quotidienne. Avec une question, avez-vous eu parfois l'envie de fuir le fracas du monde, de disparaître quelques jours, de vous mettre en vacances de vous-même, de faire le mort socialement pour souffler, vous régénérer? Voyage solitaire au long cours, dans des endroits reculés, retraite individuelle, dans un monastère ou dans une chambre d'hôtel, ou encore à portée de main, retrait chez soi, portable et ordinateur coupé, porte fermée, seul, en silence, un long moment, exilé dans un monde imaginaire. Nous verrons ce matin si la fuite est l'une des conditions du bien-être, du bonheur, comme le défendait le biologiste Henri Laborie. De plus en plus de Français rêvent de vivre retirés du monde, de façon brève ou prolongée, de tout quitter ou encore de partir à l'aventure, loin de nos sociétés trépidantes, épuisantes et ultra connectées. Si c'est votre cas, racontez-nous ce besoin de fuir par courriel, grand vous face à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Francesca et Adrien attendent vos coups de fil. Et puis dans quelques instants, vous retrouverez La vie des films de Guillemette Odissino.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Tu veux partir pendant un an? Tu sais ce que j'ai ressenti en me réveillant ce matin, Delia? Rien. Aucune passion. Aucune flamme, aucune foi, aucune ardeur, absolument rien. Alors c'est cette personne que je vais être à partir de maintenant?
Mais tu sais, c'est classique. Les gens tombent amoureux à la vingtaine, ils se marient, installent la cuisine high-tech, la maison en banlieue à la trentaine. Et à un moment donné, ils se rendent compte, ça ne me convient plus. Donc ils se plantent, ils s'effondrent, ils souffrent le martyr, ils récupèrent, ils se poussent au cul pour arriver en vrac sur le divan du psy. Mais ils claquent pas la porte comme ça.
Hé, je suis pas en train de claquer la porte, je ressens la nécessité de changer. Il n'y a que du vide, il n'y a rien qui bat là. Je vais partir en Italie. J'ai envie d'aller quelque part où je pourrais m'émerveiller de quelque chose. Que ce soit la langue, la gelato, les spaghettis, quelque chose.
Oh, on croirait entendre une ado.
Mais je me suis comportée comme telle entre mes 15 ans et maintenant. Soit j'étais avec quelqu'un, soit je rompais avec quelqu'un. Et je ne me suis jamais laissé 15 jours de répit, simplement pour être enfin face à moi-même.
Un extrait de Mange, prix M de Ryan Murphy en 2010 avec Julia Roberts. Avec nous ce matin pour éviter ce désir de fuite qui nous agite tous, ou presque, deux invités. Bonjour Rémi Oudguiri.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous avez publié en poche chez Arléa Petit éloge de la fuite hors du monde. Bonjour David Le Breton.
Bonjour Ali.
Vous êtes sociologue, anthropologue et vous avez publié chez Métellier « Disparaître de soi, une tentation contemporaine » et vous êtes en duplex de Strasbourg à France Bleu. Merci aux équipes sur place. Rémi Oudguiri, vouloir prendre le large, larguer les amarres, quitter la comédie sociale pour quelques jours ou pour un bon bout de temps, c'est une tentation qui nous chatouille tous à un moment donné.
Oui, je pense. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau. On le voit à travers toutes les époques. On pouvait remonter très loin avec les ermites qui allaient au désert, essayer de se rapprocher de Dieu et donc devaient quitter la comédie de la société. Aujourd'hui, je pense que c'est un besoin qui s'exprime beaucoup. Nous, on le voit dans les enquêtes qu'on fait. Il y a à peu près 70% des Français qui nous disent qu'ils éprouvent souvent l'envie de fuir le monde, ou en tout cas de s'y échapper. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Une chose en particulier, c'est l'emprise de la technologie dans la vie des gens, parce que la technologie sursollicite les gens en permanence, ils sont tout le temps en train d'essayer de répondre, et à un moment donné, ils se sentent totalement pris dans un flux ils perdent le contrôle de leur vie. Et pour reprendre contrôle, bah, paradoxalement, il faut s'écarter, il faut fuir, et il faut fuir cette emprise technologique. Donc je pense que ce besoin qui est assez éternel, et moi dans mon livre, j'essaye de l'étudier depuis très longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, il prend une connotation particulière, vu tout ce qu'on vit.
David Le Breton, sur cette tentation de fuite, pour mille et un motifs.
Oui, alors pour moi, il s'agit d'ailleurs moins d'une fuite que d'une manière de se mettre à l'écart, de se mettre à l'abri, parce que dans la notion de fuite, il y a une connotation un peu morale qui me gêne un peu. Bon, ceci dit, je comprends qu'un certain nombre de nos contemporains aient effectivement envie de fuir, mais je pense pas que ce soit la totalité d'entre eux. Il s'agit en tous les cas de se défaire des contraintes de l'identité. Hein, je crois qu'on est saturé d'être soi-même, de toutes les responsabilités familiales, sociales, professionnelles, familiale, amicale, etc., qui pèsent sur nous, qui sont multipliées aujourd'hui, en effet, par le fait que nous sommes en permanence connectés par le portable, par les emails, etc. Et donc, on a envie de s'échapper de ça, on a envie de reprendre son souffle. Alors, une petite remarque quand même par rapport à Rémi, je pense que cette tentation de disparaître de soi est quand même plus contemporaine. Pour moi, elle renvoie davantage à l'individualisation de nos sociétés. Donc, on la voit commencer à apparaître tout doucement à la Renaissance. Et à mon avis, elle explose dans le courant du 19e. Et puis, elle devient un phénomène de plus en plus accentué au fur et à mesure qu'on avance vers notre époque.
Rémi, oui, je suis assez d'accord. Je dirais juste que la fuite a toujours été un motif, alors pendant très longtemps religieux en réalité. Il y a toute une série, alors très longue à résumer, mais d'ermites et de gens qui ont essayé de faire leur retraite, alors soit définitive, et on devient un saint, soit ponctuellement, notamment au XVIIe siècle. Et c'est vrai que depuis le romantisme, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle, il y a face à la montée en puissance de la société moderne, de l'industrie, de la modernité, il y a une tentation d'éviter ça, de se réfugier, et donc alors c'est la fuite aux forêts des romantiques, et aujourd'hui encore plus à cause de la technologie. Et vous avez raison, David Le Breton, je pense qu'il y a une pression qui est faite sur les individus, qu'on voit très bien. Deviens toi-même, et devenir soi-même, c'est pas évident pour la plupart des gens en réalité, parce que ça veut dire se comporter d'une certaine façon, c'est trouver sa voie, et beaucoup de gens ont du mal à trouver leur voie. Et à un moment donné, effectivement, il faut s'écarter pour simplement respirer et pouvoir simplement être.
Alors, une enquête Ipsos pour Énergie Globale en 2012 indiquait que 37% des Français rêvaient de tout quitter, rêvaient de partir à l'aventure. Et dans la même enquête, un Français sur cinq aspirait à vivre retiré du monde. C'est une envie qui vous a déjà traversé l'esprit, David Le Breton. Je crois que vous avez eu envie, vous, de disparaître quelque temps sans laisser d'adresse.
Oui, mais bon là, ce serait une trop longue histoire à vous raconter, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je suis parti à un moment donné au Brésil avec la volonté de ne plus jamais revenir. C'était la tentation de l'Amazonie, l'un des lieux au monde où l'on peut disparaître. Ceci dit, j'ai réussi à trouver une accroche au monde à travers l'écriture, notamment. C'est pour ça que vous voyez que j'écris énormément.
Ah oui.
Et puis, mais je reste.
C'est pas un reproche.
Non, je sais bien. Mais je reste en tous les cas un très grand voyageur. Je suis un grand marcheur, hein, vous le savez bien. Donc finalement, j'ai essayé d'aménager ma vie personnelle de telle sorte que j'arrive à établir une sorte de compromis avec une existence dont je pense qu'elle nous échappe souvent, même si je peux être considéré évidemment être quelqu'un de privilégié en étant enseignant à l'université, en ayant une vie finalement que j'aime énormément. Mais il y a beaucoup de moments où j'ai envie de disparaître aussi, de ne plus être là. Et c'est là où je voyage énormément, c'est là où je marche, c'est là où j'écris, c'est là où je lis aussi. La lecture est une très belle manière aussi de disparaître.
Rémi Houdguiri.
Oui, bah, je pense que l'envie de disparaître, nos contemporains l'ont beaucoup. Alors vous avez cité ce chiffre, plus de 30%. Évidemment, si tout le monde se mettait à le faire, la France se viderait. C'est plus une aspiration, c'est plus un désir, c'est plus une frustration en réalité. Mais je pense qu'elle est présente chez beaucoup de gens aujourd'hui.
Et pour votre part ?
Moi, j'essaye de me déconnecter régulièrement. J'essaye de me mettre à l'écart, ne serait-ce que pour me retrouver moi-même et aussi réfléchir sur ce qui se passe. Et
j'aimerais citer Simenon, le grand Simenon, qui disait qu'une bonne partie des hommes désirent un jour changer de peau, désirent prendre la fuite. Et certains, on le verra tout à l'heure, Rémi Houdguiri, finissent par passer à l'acte, comme Monsieur Monde, la fuite de Monsieur Monde, le célèbre roman de Simenon.
Hein. Oui, ce roman est extraordinaire. Je le conseille à tout le monde parce que c'est un homme qui arrive quasiment à la cinquantaine, c'est un grand bourgeois qui a tout réussi et en même temps qui s'ennuie terriblement et qui se rend compte qu'il n'a pas vécu. Et donc sur un coup de tête, en fait c'est un coup de tête qui a été préparé, c'est l'appel de la fuite, il rompt les amarres, il quitte, il disparaît justement. Alors il y a tout un rituel, il se rase la moustache, il change d'habit et il va à Marseille complètement revivre.
On reviendra tout à l'heure sur la fuite de Monsieur Monde de Simenon. 01 45 24 7000 pour témoigner ou poser vos questions, grand bien vous fasse, à radiofrance.com. Comme même retirée dans un monastère grec, elle convertirait tout le monde à sa gouaille. Guillemette Odissino et sa vie des films.
La vie des films,
t'as été formidable, tu sais.
Bon, allez, faut pas rester là, voyons, Corneille. Va surveiller la fricassée.
Guillemette Odissino.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour.
Alors tous les vendredis...
J'arrive d'un monastère là justement et tout, et ils étaient ravis, on a discuté pendant des heures.
Tous les vendredis, vous nous racontez la vie à travers un film. Cette semaine, L'homme qui voulait vivre sa vie d'Éric Lartigot, sorti en 2010 et adapté d'un roman de Douglas Kennedy.
Greg, Paul est mort. Il a disparu sur le bateau de son père. La police a ouvert une enquête Ils m'ont posé plein de questions sur mon couple. Si ça allait entre Paul et moi. C'était horrible. Ils ont conclu à l'accident. Bon, voilà. C'est un accident, c'est pas autre chose. C'est un accident.
Alors Ali, en fait, ce n'est ni un suicide, ni un accident, ni rien du tout, parce qu'en fait, bah, Paul, il n'est pas mort du tout. Hein. Je ne trahis pas grand-chose, puisqu'on on s'en doute, et le récit du livre de Douglas Kennedy et du film repose là-dessus. C'est un changement d'identité. Alors pour des raisons quand même assez violentes, c'est-à-dire le Paul dont on parle, c'est exactement ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire cette contrainte de l'identité. C'est un bourgeois, il a une grande maison, il a une femme qui a seulement l'air heureuse, il a un métier où il gagne plein d'argent, et en fait, sa vie s'écroule. Là, je vous laisse un peu de suspense. Sa vie s'écroule, et elle s'écroule même d'une manière extrêmement violente, puisque le Greg en question, lui, pour le coup, il va disparaître vraiment. C'est son voisin, ils ont des raisons à un moment de se battre. Greg va disparaître, et Paul va prendre sa place. D'autant que Paul, en fait, dans cette vie bourgeoise où il s'emmerde comme tout, il n'a qu'une passion, c'est la photographie. Et il va devenir le photographe qu'il rêvait d'être. Alors effectivement, c'est une fuite un peu obligatoire, où il se fait passer pour mort, mais il va donc parcourir le monde, un sac à dos, un bateau, et soudainement juste un petit appareil photo, alors qu'avant, il avait une pièce entière pleine de technologies, avec des écrans, des appareils photo extrêmement perfectionnés. Là, il part juste avec un petit appareil photo mécanique. Et en fait, ce qui est fou dans ce film, évidemment dans le roman, mais vraiment Éric Lartigot arrive à le faire sentir, c'est petit à petit, c'est un film qui commence de manière assez classique, et l'appel de l'aventure, l'appel même du danger, l'appel de l'autre se fait sentir incroyablement fort, c'est-à-dire qu'il est en contact avec le monde. En fait, Paul se fuir lui-même, ça l'aide à retrouver le monde, à le regarder à travers son objectif. Il se met à photographier des ouvriers à un chantier naval. Alors après, pas de chance. En fait, il s'avère qu'il a du talent et que quand on veut disparaître, c'est pas une bonne chose d'avoir du talent parce que du coup, ça vous met dans les feux des projecteurs. Donc il va falloir à nouveau disparaître, redisparaître, sans cesse disparaître. Mais c'est vraiment un film très beau, en plus porté par Romain Duris, ce qui... je ne vous le cache pas, ne gâche rien. C'est vraiment un film exactement sur ça. C'est il faut se fuir soi-même, non seulement pour se trouver, mais pour être enfin en contact réel avec le monde. Pas un contact artificiel, pas un contact où on est dans la case, où on ne voulait pas être, mais vraiment regarder le monde avec un objectif, avec une belle objectivité. Alors bon, je vous demande pas non plus d'assassiner quelqu'un ou de prendre un bateau pour partir au bout du monde pour faire des photos, mais peut-être qu'effectivement, juste regarder le monde en prenant un bête train ou un bête RER, peut-être que ça compense tous les tantrismes, tous les yogas et tout. Prenez juste un appareil photo ou prenez un bouquin et allez regarder le monde.
Alors là, vous buvez du petit lait, là, Rémi Oudguerri.
Oui, parce que la thèse de mon livre, c'est que fuir le monde, en réalité, c'est une manière d'y entrer vraiment. Et en fait, je fais l'analyse de plein d'œuvres qui, justement, à chaque fois, on voit bien que pour être dans le monde, dans le vrai monde, il faut quitter ce faux monde, le monde de la société, le monde de la comédie des hommes, etc. Ça me fait penser aussi à Into the Wild, que Sean Penn avait mis à l'écran, qui est une histoire vraie, en fait, ce jeune homme de 20 ans qui, dans les années 90, décide de tout rompre, de tout quitter, alors qu'il venait de réussir un super examen universitaire. Et il s'enfonce dans les forêts. Et il y a cette phrase superbe de Sean Penn qui dit « Plus il s'enfonçait dans les déserts de l'Alaska, et plus il s'enfonçait dans lui-même. » Et donc, et plus il était enfin... Il vivait vraiment sa vie. Et ça, c'est un motif qui revient en permanence.
La vie des films de Guillemette Odissino, c'est tous les vendredis dans Grand Bien Vous Fasse. Une émission préparée par Alexa Rivière et Alice Jacquelin avec l'aide de Clara Marlio, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit en... ces mêmes traits d'ennui. Beaucoup trop sérieux. Jamais su danser. T'as jamais su glisser.
Qui interprétait Jamais su danser.
France Inter, grand bien vous fasse.
Et on s'intéresse ce matin à 10h25 à tous ceux qui veulent fuir le fracas du monde pour mille et une raisons. Se mettre en retrait du monde, sortir du jeu, se mettre en vacances de soi. Bonjour Sylvie, vous appelez de Toulon.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez déjà eu la tentation de fuir?
Oui, je l'ai même expérimenté. Il se trouve que la même année, j'ai perdu mon papa et j'ai appris que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et pour moi, bon, bien sûr, ça a été un gouffre et je sentais que j'allais sombrer. Et j'ai eu envie d'une seule chose, très bizarrement d'ailleurs, parce que ça ne m'était jamais arrivé, c'est de partir. Alors, je ne suis pas partie, mais j'ai fait une retraite dans un monastère de jésuites pendant 4 jours. J'ai même demandé, une fois que quand je suis arrivée, on m'a proposé de me joindre à un groupe. J'ai refusé, j'ai voulu rester seule. Je n'avais de contact qu'avec le Père supérieur, qui m'a aidée par sa parole, qui m'a donné un livre qui était Une vie bouleversée des Tilsum, que j'ai lu pendant 4 jours. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Le cadre était magnifique, c'était extrêmement calme, ça m'a permis de me recueillir. Ça m'a permis de faire le point et en fait j'ai vraiment l'impression avec le recul que j'ai échappé à une thérapie, j'ai pas pris de médicaments, enfin j'ai réussi à surmonter ces deuils d'une manière assez naturelle, mais ça m'a fait un bien fou, voilà. Et donc j'encourage tout le monde, enfin tous les gens qui traversent des périodes extrêmement compliquées de leur vie, à peut-être prendre du recul et à faire la même chose. Enfin, peut-être pas dans un monastère, mais au moins à partir. Voilà.
David Le Breton, en duplex de Strasbourg, sur le beau témoignage de Sylvie.
Oui, alors juste un instant, je fais un pas de côté, justement, un petit détour, pour dire que je suis un petit peu gêné de l'idée de parler d'un vrai monde ou d'un faux monde. Je pense qu'il n'existe que des interprétations du monde et que d'autre part, on peut effectivement se sentir en porte-à-faux avec le monde qui nous entoure. C'est un peu ce que raconte Sylvie. On peut se sentir soudain arraché à ses anciennes évidences, à ses anciennes certitudes et essayer de trouver un autre chemin pour se retrouver. Vous rappelez la phrase de Rimbaud qui disait « je est un autre », on pourrait dire « je est mille autres ». Il y a en nous des milliers de personnages finalement qui s'agitent. Ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit d'innombrables hasards, évidemment des hasards que nous avons pris à bras le corps pour les transformer en notre aventure personnelle, mais nous aurions pu être tellement d'hommes ou de femmes différents à la fois. Alors pour revenir, et donc c'est pour ça que nous sommes en permanence dans cette nostalgie de l'ailleurs, dans cette nostalgie de l'autre, et quand on se sent mal dans sa peau, quand on sent que le monde nous échappe, on a l'espoir de trouver ailleurs donc un autre ancrage. Et le témoignage de Sylvie va bien effectivement dans le sens de cette aspiration à une aspiration au silence d'ailleurs, une aspiration à calmer le jeu, une aspiration à se retrouver, à faire le point, une sorte de lâcher prise, mais à lâcher prise heureux en quelque sorte, qui permet de relancer les dés. Et là, la disparition de soi est plutôt un sas, elle est plutôt provisoire, elle est une parenthèse en quelque sorte, et puis on revient plus fort, avec plus de ressources.
Sylvie, vous êtes revenue plus forte, avec plus de ressources ?
Je suis revenue apaisée. Je ne suis pas pratiquante, même si j'ai peut-être de la spiritualité en moi, mais j'allais pas assister aux offices de la messe. Mais je suis revenue apaisée, ça m'a fait un bien fou, oui. Alors est-ce que ce lieu qui était dédié à la méditation, qui est, bon, en plus les jésuites sont des gens extrêmement, à mon avis, intelligents, et en même temps, je suis tombée sur une personne qui avait beaucoup de psychologie en elle, elle a orienté mes lectures, et j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Voilà.
Merci beaucoup Sylvie de nous avoir appelé de Toulon. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Vous appelez d'où Laurent?
Alors, je suis sur mon voilier à Port-Camargue.
Ah, bah écoutez, quelle chance. Alors, vous avez 50 ans cette année, et, oui. Et là, vous avez vraiment envie de prendre le large avec votre voilier, loin de la France.
Voilà, l'idée, c'est pas une fuite, en fait, ça aurait pu l'être il y a quelques années, mais aujourd'hui, à 50 ans, c'est plus une plongée dans le monde avec le voilier. Pour aller un peu découvrir, j'ai un métier particulier, je travaille avec les chevaux, et l'idée, c'est le fil conducteur, c'est d'aller voir un peu les chevaux à travers le monde et de rencontrer évidemment les gens qui sont propriétaires de ces chevaux et puis aussi arrêter de courir, quoi.
Vous êtes lassé de ce monde ultra connecté, ultra concurrentiel, qui voue un culte à l'efficacité, vous avez envie de tourner le dos à tout ça?
Oui, j'ai travaillé dans de grosses sociétés, j'étais informaticien et un jour j'ai décidé d'arrêter de faire des mises à jour.
C'est pas mal ça.
J'ai décidé voilà de vivre à la vitesse du vent, du bateau, sur l'eau, et de pas de tourner le dos parce que le monde, de toute façon on est dedans quoi, mais de renoncer un peu entre guillemets à tout ça quoi. C'est très lassant. Très lassant, le projet est plus intéressant, voilà, c'est de vivre ma propre vie, avec ma compagne évidemment, mais à travers le monde.
Rémi Houdguiri.
Oui, je pense qu'on retrouve toujours ça dans beaucoup de fuites que j'ai pu étudier, c'est-à-dire l'envie de renaître plus libre, en fait, de se libérer de quelque chose qu'on considère contraignant et qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, on ne sait jamais trop ce qu'on veut, mais en revanche, pour vraiment essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on veut vraiment, il faut déjà pouvoir échapper à toutes ces contraintes.
Bonne route à vous, Laurent. Vendredi prochain, on reçoit Sébastien Destremo, vous savez, ce navigateur qui est arrivé dernier lors du dernier Vendée Globe. Alors, soyez à l'écoute, ça pourrait peut-être être instructif pour vous, mais quoi que vous partez avec votre compagne, vous partez pas seul.
Non.
Merci beaucoup Laurent de nous avoir appelé. David Le Breton, ça se traduit comment ce retrait du monde? On peut mettre en œuvre mille et une stratégies, la palette est large, de la rêverie à la méditation, passant par la lecture, le sommeil, c'est très large.
Oui, là, Ali, vous prenez effectivement des modalités qui sont relativement paisibles, relativement tranquilles. Dans mon livre, je me suis aussi beaucoup attaché au personnes qui sont plutôt dépressives, qui connaissent des burn-out, qui recherchent l'épuisement dans un travail. Il s'agit de ne plus penser à soi, hein, d'arrêter ce mouvement continu, ce tourbillon en soi dans lequel on se reconnaît de moins en moins. Et puis il y a aussi évidemment toutes les conduites à risque de nos jeunes sur lesquelles je travaille énormément, vous le savez bien, oui. Et où on constate que dans toutes les conduites à risque de nos jeunes, vous avez cette quête de la disparition de soi. C'est caricatural dans la recherche du coma, par exemple, du coma éthylique, mais on retrouve ça dans les jeux d'étranglement à travers la recherche de la syncope, on retrouve ça dans la transe anorexique, on retrouve ça dans évidemment les différentes formes de toxicomanie et autres. Donc c'est pour moi une constante du mal de vivre adolescent que de chercher un autre monde, un monde ailleurs, où on est moins meurtri en quelque sorte par son environnement social.
Et puis il y a aussi la fugue adolescente, oui. Hein, qui...
Oui, bien sûr, l'errance sur les routes, on les voit tous les jours, de plus en plus malheureusement dans nos villes, des jeunes qui ont rompu avec leurs parents ou leurs beaux-parents, qui vivent dans les interstices du lien social, qui se prénomment autrement, hein, ils s'inventent des noms, ils renaissent à eux-mêmes, pas toujours de manière très heureuse en revanche. Et puis au-delà, évidemment, il y a Alzheimer, que j'analyse comme plutôt une sorte d'épuisement des significations avec lesquelles on peut vivre, le sentiment d'avoir tout donné, le sentiment de ne plus pouvoir. Et donc, et c'est ça, à mon avis, qui vient abîmer le cerveau, entre guillemets, bien plutôt que le cerveau qui se détruirait, puis qui amènerait à ce retrait du monde.
Alors, David Le Breton,
oui.
Mais de façon plus apaisée, certains cherchent à devenir totalement transparents, et vous appelez même cela blancheur, cet état d'absence de soi, plus ou moins prononcé, cette volonté de relâcher la pression, la blancheur. C'est quoi exactement?
Voilà. Bah, j'appelle blancheur justement le fait d'être le blanc, c'est l'absence de couleur, on pourrait dire, et en même temps il nous arrive parfois de dire j'ai eu un blanc, c'est-à-dire je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Bon, dans l'idée de la blancheur, hein, il y a beaucoup d'autres choses, je n'ai pas le temps de développer ça, j'en parle beaucoup plus longuement dans le livre, mais là vous évoquez un autre trait qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à présent, c'est l'impersonnalisation, une recherche d'absence de l'individu, et c'était l'un des points de départ d'ailleurs de l'écriture de mon livre, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai connu comme ça trois personnes dans ma cité, dont l'un qui m'était extrêmement proche. C'était trois jeunes avec lesquels je jouais au football, je jouais au basket, etc. On faisait des tas de choses ensemble, et puis progressivement ils se sont retirés en quelque sorte. Alors leur famille a pris le relais, les a protégés, leur a donné un abri, et puis au fil du temps, évidemment, ils se sont retrouvés les uns et les autres dans des hôpitaux psychiatriques, dans des sortes d'asiles, entre guillemets, au sens plutôt noble, disons, du terme, pour les protéger, en quelque sorte, de la violence du monde qui les entourait. Ils ne se reconnaissaient plus dans le monde. Et cette impersonnalisation, je crois qu'elle est de plus en plus présente dans nos sociétés. Alors, elle explose, par exemple, au Japon, avec les fameux hikikomori, ces jeunes qui ne veulent plus quitter leur chambre, et qui ne veulent plus voir leurs parents, qui ne veulent plus voir leurs frères et leurs sœurs, ni leurs amis, et qui vont pendant des mois ou des années vivre comme des espèces d'ermites postmodernes, on pourrait les appeler, parce qu'à la fois ils sont dans le retrait du monde, mais ils sont malgré tout sur les liens sociaux. Et vous savez qu'au Japon, on les évalue autour de 250 000. Hein, une sorte de grève de l'existence, en tous les cas une grève du lien social, et un repli radical sur soi-même.
Rémy Oudguiry, on l'a vu là avec David Le Breton, la palette de la fuite du monde ou de la disparition de soi est très très large. Hein. Ça peut être très positif comme plus sombre, plus négatif. Nous sommes nombreux à avoir cette tentation-là, mais nous sommes assez peu à vraiment mettre cette idée en pratique. Quelle est cette main invisible qui nous retient de vraiment fuir ?
Cette main invisible, c'est que d'abord c'est très compliqué pour beaucoup de gens simplement de changer de voie à un moment donné. Ça demande du courage, ça demande de l'opportunité, ça demande un bagage aussi probablement. On vit dans des sociétés où il n'est pas facile de faire son chemin. Donc les conditions économiques souvent ne favorisent pas cela. C'est vrai que dans mon livre, moi j'ai plutôt, j'étudie le versant positif de la fuite. Oui. C'est ça
lumineux.
Qui est, voilà, bien sûr. Mais comme le précise David Le Breton, il y a évidemment plein aujourd'hui dans notre société de symptômes de fuite malheureuse. Hein. La drogue, l'alcool, etc., etc. Enfin, il y a effectivement des symptômes plus graves. Mais moi, j'étudie plutôt l'idée que c'est en fuyant qu'à un moment donné, on peut espérer trouver un chemin vers le bonheur.
Je m'adresse là au sociologue Rémi Houdguiri. Quels sont les moments de la vie où cette envie de fuite est la plus forte? Et est-ce que tous les milieux sociaux sont concernés par cette tentation de la fuite?
Alors, je pense que il y a plusieurs types de fuites. L'idée de fuite évolue avec les âges de la vie. Il y a la fugue dont vous avez parlé. Mais je dirais que probablement le moment autour du milieu de la vie, comme disent les psychologues, 40, 50 ans, je pense que c'est un moment propice. Pour une raison très simple, c'est qu'on réalise à ce moment-là qu'on a une grande partie de notre vie est déjà derrière nous et que par conséquent, le temps va s'accélérer. Et on prend conscience que finalement, est-ce qu'on a vraiment eu la vie qu'on voulait avoir? Et beaucoup de gens, malheureusement, constatent que ce n'est pas tout à fait la vie. Et donc, ça donne l'envie de tout larguer les amarres et de faire autre chose.
C'est la crise du milieu de vie.
Exactement.
Guillemette Odissino.
Et je me demandais juste si dans ces fuites et ces fugues heureuses, positives, est-ce qu'il y a forcément besoin de changer d'endroit? Est-ce que c'est bien de se délocaliser, en fait?
Très bonne question.
Ouais, je pense que David Le Breton l'a dit tout à l'heure, la lecture, par exemple, est une fuite merveilleuse. Et donc, vous n'avez pas besoin, en réalité, de voyager. Henri Laborie, qui avait écrit son fameux Éloge de la fuite, disait que l'imaginaire, c'est le plus bel espace de fuite. Parce que même quand vous êtes en prison, vous pouvez vous enfuir, quand vous êtes enfermé, vous pouvez vous enfuir à travers l'imagination. Donc je pense que c'est plus quelque chose qu'on peut cultiver en soi, c'est une exploration intérieure aussi.
We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
She's Living Home, issu de l'album Sgt Pepper's, l'occasion de vous indiquer l'expo en ce moment à la Maison de la Radio jusqu'au 29 juillet pour fêter le cinquantenaire de l'album. Alors Rémi Houdguiri, ce titre des Beatles, c'est un véritable hymne à la fugue. À l'époque, à la fin des années 60, le démon de la fuite en chatouille plus d'un, désir de fuir une vie étriquée, étouffante, sclérosée, pour partir sur les routes, s'évader pour aspirer une grande bouffée d'air, frais.
Oui, les années 60, il y a des rêves de fuite incroyables. Enfin, c'est la fameuse aventure hippie. On part sur les routes, il y a des merveilleux films, Easy Rider par exemple, où on part, on erre un peu dans les États-Unis. Enfin, je pense que ça a chatouillé plein de gens à cette époque aux États-Unis et ailleurs. Et il y a plein de récits dans les années 60. Et l'idée c'était de vivre à l'écart de cette société de consommation qui commençait véritablement à devenir dominante. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ces fuites n'étaient pas nécessairement contestateurs. On ne contestait pas ce monde, mais on voulait simplement ne pas y participer et on voulait vivre à l'écart, un peu comme les ermites des premiers siècles de notre ère, sauf que là, la drogue était plus circulée, enfin on était dans la défonce, etc.
Allez, si vous rêvez de fuir, vous avez déjà réalisé ce rêve, nous attendons vos témoignages, 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com, à suivre la fausse pub du vendredi de François Audour. Shocking Blue, Venus.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Quatre roues directico-motrices pour une précision de conduite hors du commun. Système grippo maximo et suspension hydraulique active pour une tenue de route incroyable, même à la renverse. Nouveau design pompé sur les plus belles voitures allemandes. Tablette multimédia connectée Link Jail pour vous suivre à la trace à tout moment. Échappez-vous du monde au volant de la nouvelle Pipo 4K.
Putain, mais tu vas la bouger, ta caisse !
Oui, il faudra d'abord sortir de Paris. Et si vous passez par les quais, prévoyez de partir deux jours à l'avance, il y a 60 km de bouchons jusqu'au péage de Saint-Arnoult. Mais sinon, après, vous pourrez vraiment fuir le monde. Sauf si vous partez en juillet ou en août, parce que tout le monde voudra fuir le monde en même temps que vous. Du coup, vous vous retrouverez tous au même endroit pour les vacances. Et oui, c'est pas comme dans la pub. Il n'y a pas qu'une seule voiture qui roule en ville et on t'a fait signer un crédit sur 5 ans pour payer ta bagnole, alors on te laissera pas fuir le monde trop loin quand même. La nouvelle Pipo 4 quarts, vous êtes vraiment des pommes.
La fausse pub du vendredi de François Audouin avec la voix d'Éric Oswald, 10h44. Et on s'intéresse ce matin à ceux qui rêvent de fuir le fracas du monde avec les sociologues Rémi Houdguiri, auteur d'un petit éloge de la fuite hors du monde, et de David Le Breton, auteur de Disparaître de soi en duplex de Strasbourg.
Je voudrais vous demander, cher Simenon, pourquoi vos héros fuient-ils ? Ce n'est pas apparemment pour recommencer leur vie, mais non, simplement pour changer leur vie.
Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, voilà. C'est un petit peu comme les saints s'en allaient dans le désert. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes, à un moment donné, ont un besoin de simplicité, de pureté totale, que l'on ne peut pas atteindre dans la vie de tous les jours. L'homme n'a plus aucun moment pour être face à face avec lui-même, face à face avec la vie tout court, avec la vie avec une majuscule, comme le paysan qui est assis devant sa porte et qui regarde tout simplement se coucher le soleil au-delà de ses prés. Eh bien, je pense que beaucoup d'hommes, à un certain moment, ils ont une envie de fuir pour aller nulle part, si je puis dire, uniquement de fuir pour se retrouver dans une autre ambiance, pour ne plus être oppressé par ces mêmes nécessités de tous les jours. Ce n'est pas un dégoût à proprement parler, c'est plutôt une énorme lassitude. Vous comprenez ce que je veux dire ? Une fatigue qui les submerge. Et à ce moment-là, ils s'en vont.
L'un des plus grands romanciers du XXe siècle, Simenon, 1955, vous ne me contredirez pas, Rémi Houdguiri,
hein ? Non, je pense comme vous.
Sur ce que vient de nous dire Simenon.
Moi, je pense que le mot important qu'il a prononcé, c'est le mot pureté. Parce que quand vous regardez les textes des premiers ermites du désert, il y a souvent le mot pureté. Ils fuient la compagnie des hommes pour retrouver une forme de pureté, et cette pureté va les mettre en face de Dieu. Et c'est ce qu'il dit aussi, au fond, les gens ne cherchent pas nécessairement à changer leur vie, ils cherchent simplement à purifier leur environnement pour pouvoir être dans une relation. Alors tout à l'heure, on a parlé de transparence, pureté. Et dans mon livre, je parle de Rousseau qui lui essaye justement de s'oublier lui-même et d'être dans une rêverie de communion avec la nature. Je pense qu'à chaque fois, c'est l'idée de retrouver un rapport le plus authentique possible, le plus immédiat et le plus pur.
Alors dans le roman de Simenon, La fuite de Monsieur Monde, Norbert Monde passe à l'acte, il fuit la société, il franchit une frontière invisible pour découvrir un monde plus vivant, fait de senteurs, de chair, de saveurs. C'est une fuite comme ouverture au monde et comme cure de jouvence.
Comme cure de jouvence, il redevient presque un enfant.
Il a tout, hein, Norbert Monde.
Il a tout ce qu'il faut, la propriété, la femme, les enfants, le statut, etc. Et la première chose qu'il fait, et c'est intéressant, il se baigne dans une baignoire avant d'aller dans la mer. En fait, il veut retrouver la sensation de l'eau, et c'est un peu la sensation de l'origine, en fait. Il redevient un enfant.
Éric Libiot, grand passionné de Simenon devant l'Éternel.
Mais Monsieur Bond, en fait, c'est Georges Simenon lui-même. Hein. Faut pas oublier, qu'il a été journaliste avant d'être romancier, qu'il a vécu au tout début de sa vie dans une péniche, que le premier texte qui a été publié, la première scène se passe dans un train, qu'il a lui-même fui en Afrique, beaucoup en Amérique aussi, qu'il a changé en France de lieu, il a vécu à La Rochelle, il a vécu... Donc c'est un homme qui s'astreignait au travail quotidien d'une façon extrêmement cadrée, 5 heures du matin jusqu'à midi, mais qui dans sa propre vie n'a cessé de fuir, en tout cas d'aller chercher ailleurs peut-être l'inspiration, et ce qu'il disait dans l'interview, en tout cas de fuir la lassitude que pouvait prendre le métier d'écrivain.
David Le Breton, duplex de Strasbourg.
Oui, Oui, pour moi, ces disparitions des personnages de Simenon ou de Simenon lui-même sont plutôt des échappées belles plutôt que des fuites. Hein. Depuis le début de l'émission, je suis un petit peu critique envers cette notion de fuite. Il voilà, j'aime mieux l'idée d'échappée belle, qui est une manière de dire finalement qu'il y a au devant de nous d'innombrables versions possibles du personnage que l'on incarne. Et puis, on s'écarte finalement d'une existence dans laquelle on a du mal à se reconnaître. C'est plutôt la recherche d'un autre sens à sa vie, d'une valeur, d'une plus grande intensité d'être. Et ça, ça caractérise effectivement très très bien Simenon. Et au-delà, bien entendu, il y a une recherche de la simplicité, une recherche de l'élémentaire, entre guillemets. Hein, retrouver quelque chose du cosmos aussi, quelque chose d'une appartenance avec le monde, avec les autres.
Rémy Houdguéry.
Oui, juste, je suis d'accord. Dans le cas de Norbert Monde, on devrait parler de fugue, parce qu'à la fin du roman, il revient.
Guillemette Odissino.
Oui, mais justement, ce minimalisme, est-ce que c'est pas ça chez Simenon quand même particulièrement? Parce qu'il y a d'autres héros de Simenon qui fuient, qu'on retrouve sur des bancs qui sont clochards et heureux de l'être. Donc, est-ce que cette échappée belle, c'est pas se débarrasser en fait? Et c'est peut-être pas chercher ce qu'on est d'autre, c'est chercher ce qu'on est très, très petitement, c'est-à-dire se minimaliser.
Éric Libio. Oui, et puis pour revenir à ce que disait Guillemette tout à l'heure dans sa chronique sur le cinéma, il a employé beaucoup de pseudonymes déjà, Simenon, donc il y avait un, pas un problème avec son identité, mais une façon comme ça de cacher et de fuir. Et c'est vrai que, enfin, me semble-t-il, l'idée de son style, dont on a reproché très longtemps que c'en était pas un, mais évidemment c'en était un, lui, il fuyait le baroque, il fuyait l'extra-dramatisation, il fuyait tout ça, même
dans son propre travail,
la boursouflure, etc. Et c'est vrai ce que dit
Guillemette. Donc il devenait minimal. Ouais.
Non, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ce style était aussi une recherche pour lui, sans doute une espèce de jeu de miroir entre sa propre personnalité et son métier d'écrivain.
Bonjour Julien Chavannes.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef de l'excellent mensuel Néon.
Si je me permets, je suis rédacteur en chef.
Vous êtes rédacteur en chef, pardonnez-moi.
Adjoint,
oui. Et, voilà, très bien. Important. Un jour, vous deviendrez rédacteur en chef. Julien Chavannes, l'année dernière, vous avez publié une enquête. Vous avez disparu pendant 6 jours. Vous avez changé d'identité et vous avez erré en voiture. Vous êtes caché dans un ermitage et même dormi dans une grotte.
Et... C'est ça, exactement.
Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience incroyable?
On cherchait une expérience un peu forte à réaliser. Néon, c'est un peu la spécialité à Néon de réaliser des expériences. Et cette idée de la disparition nous trottait dans la tête depuis très longtemps. Ce fantasme de la disparition, dont parle très bien David Le Breton d'ailleurs, que j'avais interviewé pour l'article, nous attirait très fortement. Et donc, on a mis cette expérience en place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'abord une très grande sensation de liberté. Hein, vos invités en ont parlé juste avant, l'impression d'échapper à soi, mais aussi au regard des autres, et donc de retrouver une forme d'instinct, la possibilité d'aller absolument partout et de faire ce qu'on veut, puisqu'on échappe au regard de l'autre, et à son aspect un peu moral.
Vous aviez changé d'identité, hein, Julien Chavannes, hein.
Oui, c'est ça, j'avais fait procéder par étapes, en fait. J'avais embauché un nettoyeur du web pour effacer mon identité numérique, puisque aujourd'hui, c'est un des aspects de la disparition qui... Voilà, le numérique complique un petit peu les choses, les réseaux sociaux notamment, donc il a essayé d'effacer mon identité sur Internet, ce qui n'a pas été évident. Et puis après, je me suis acheté sur le dark web une fausse carte d'identité, puisqu'il me semblait important d'endosser une nouvelle identité au cours de mon périple. Pour mieux vivre cette disparition.
Et sur ce vertige de la solitude que vous avez vécu en disparissant pendant 6 jours, on ne devient pas un peu fou?
Au bout d'un moment, on se sent très seul. Il y a une grande euphorie. Et puis très vite, il y a un grand sentiment de solitude. Surtout pendant mon périple, j'ai interviewé des gens qui avaient véritablement disparu, qui avaient pour le coup procédé plutôt à des vraies fuites qu'à des échappées belles, comme en parlait David Le Breton, et notamment des familles, des parents, d'adolescents qui avaient pu disparaître, qu'on avait retrouvé en Roumanie ou complètement perdu dans des situations extrêmement difficiles. Donc voilà, la disparition, c'est quand même pas un jeu. Moi, j'ai fait finalement un simulacre de disparition, un ersatz. Et pour les gens qui disparaissent brutalement, pour les proches, c'est extrêmement difficile. Et souvent, pour eux, c'est une aventure un peu vers la folie, effectivement. Et ils en ressortent parfois en très mauvais état.
Merci beaucoup, Julien Chavannes, rédacteur en chef adjoint du mensuel Néon. C'est une enquête qu'on peut retrouver sur Internet, sur votre site. Des courriels, un courriel de mode qui nous dit « Quand j'avais 25 ans, j'allais régulièrement dans une gare à Paris, souvent à la gare de Lyon, et je prenais le premier train qui partait. Je restais la journée à déambuler dans cette ville inconnue avec un sentiment de liberté totale. »
l'impression que je pouvais faire n'importe quoi. Rémi Oudguiri, faut-il fuir pour être heureux? Vous avez cité tout à l'heure le biologiste Henri Laborie. Pour lui, la fuite, eh bien, c'était une condition du bien-être. Pour mener une vie sereine et équilibrée, pour lui, l'individu moderne doit s'aménager des moments de fuite hors du monde social. Alors, pour lui, pour Henri Laborie, il défend l'idée d'un exil dans l'imaginaire.
Tout à fait.
Pas vraiment une fuite physique, hein.
Oui. Mais pour eux, oui. Donc, moi, je pense que la fuite est une des conditions du bonheur. C'est pas la condition. Ça ne suffit pas, évidemment. Mais fuite au sens où on l'a entendu depuis le début. C'est-à-dire d'échapper à l'emprise du regard des autres. Retrouver une liberté qu'on n'a pas quand on vit en société. Quand on vit aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux sur lesquels, on passe énormément de temps. Donc, oui, c'est la première étape vers une reconquête de soi-même. Et en tout cas sur la possibilité d'être vraiment soi-même. Donc je pense que ça fait partie des ingrédients, oui.
Il faut faire un va-et-vient entre le monde réel et le monde imaginaire.
Oui, je pense que, par ailleurs, c'est l'équilibre qu'il faut tenir. Mais plus que jamais, je pense que le mot liberté est très important. Je cite notamment Rousseau, qui est quand même dans la littérature française, celui qui a fait l'éloge de la fuite. À 43 ans, il fuit dans les forêts de Montmorency. Et il dit, je voulais fuir le monde des hommes. Alors pour lui, il était un peu paranoïaque, il était méchant. Et il fallait que je retrouve ma liberté, c'est-à-dire la liberté non pas de faire ce que je veux, mais de ne pas faire ce que je ne veux pas.
David Le Breton, nous avons 30 secondes pour conclure avec vous. Notamment, alors pour parler, vous parliez d'échappée belle. L'échappée belle, oui. Plutôt que la fuite, à travers la marche que vous défendez ardemment.
Oui, voilà. Oui, alors d'abord, c'est la recherche d'abri, en quelque sorte, dans sa vie personnelle, pour se protéger. C'est l'idée d'une chambre à soi, par exemple, de Virginia Woolf. Mmh. C'est l'idée du jardin secret, en quelque sorte. Mais il y a une belle phrase de Montaigne qui évoque la nécessité pour chacun de nous d'avoir un lieu qui n'appartienne qu'à lui. Et puis, évidemment, ce sont ces centaines de millions de marcheurs aujourd'hui qui arpentent le monde et qui sont dans une disparition de soi heureuse, paisible. C'est-à-dire, ils se libèrent des contraintes de l'identité qui parfois les engonce, en tous les cas dans une vie quotidienne où ils ont du mal à s'y retrouver, et ils retrouvent un sentiment de plénitude, d'intensité d'être, de disponibilité aux autres, de disponibilité au monde. Ils ne sont plus dans la pression d'être soi. Ils sont toujours déconnectés aussi.
Merci David Alice. Le Breton en duplex de Strasbourg. Merci aux équipes de France Bleu sur place. Disparaître de soi est publié chez Métellier. Je le recommande vivement comme le petit éloge de la fuite hors du monde, disponible en poche chez Arléa. Merci beaucoup Rémi Oudguiri pour ce bel ouvrage à suivre.
Merci.
C'est tout de suite la petite mythologie d'un objet du quotidien avec Éric Libio. Rebonjour Éric Libio.
Bonjour Ali.
De l'Express. Alors dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien, vous vous intéressez à un objet de circonstance.
Eh oui, mais il faut d'abord arriver à la toute fin de votre livre, Rémi Oudguiri, pour goûter au pourquoi du comment de votre démonstration. Je vous cite « Aujourd'hui et davantage encore demain, la fuite sera peut-être l'un des rares chemins qui nous restera pour entrer dans le monde. Donc si je comprends bien, c'est partir pour revenir, quitter pour rentrer, passer par la fenêtre pour ouvrir la porte, s'en aller pour être là, fuir pour être présent. » Voilà les grands paradoxes de la vie. Ah, les paradoxes, que ferait-on sans eux? Pas grand-chose, sans doute, surtout si on n'avait pas non plus les métaphores. Ah, les métaphores, que ferait-on sans elles? Pas grand-chose, surtout si on n'avait pas non plus les analogies. Les paradoxes sont le sel de la vie quand les métaphores en sont le poivre. Voilà une analogie culinaire. Paradoxe, métaphore, analogie, c'est ce que transbahutent les objets du quotidien. Et pour continuer dans le départ et le retour, cher Rémi Oudguiri, voilà un objet d'actualité. Ali, vous l'avez dit, la raquette, surtout la raquette de tennis, à l'heure où se termine le tournoi de Roland-Garros. La raquette qui permet de taper dans la balle pour qu'elle revienne. La raquette, à ne pas confondre avec le racket, qui est un sport de récréation peu fréquentable. Alors la raquette est un objet qui a beaucoup changé et peu évolué. Les matériaux ont changé, mais la forme de l'objet et son utilisation sont les mêmes, comme dans le guépard de Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change, ce qui peut être un moyen de ne pas fuir le monde ou pour faire semblant de le fuir. Alors, les lecteurs de Libération du siècle dernier, il doit en rester quelques-uns, se souviennent sans doute des comptes rendus de matchs du tournoi de Roland-Garros par Serge Danet, par ailleurs grand critique de cinéma. Serge Danet voyait dans ses confrontations le monde se mettre en scène en direct, sous l'apparence d'une fiction s'écrivant au moment où elle se jouait, métaphore là aussi. Le court de tennis, c'est la contrainte et la liberté, le carré de service, les couloirs, les lignes, et à l'intérieur, la lutte des classes, l'opposition de jeu et du jeu, les drames et les bonheurs exultés dans des cris de cacatoès, le combat des titans et des amazones pour la terre battue promise, La raquette, elle, est l'instrument de cette métaphore. La raquette sert à échanger, donc à discuter. La raquette, c'est l'instrument de la conversation, de l'échange et du point final, du service en majuscule, de l'amorti qui ressemble à la virgule, du revers coupé laissé en suspension, du coup droit lifté qui referme une parenthèse, du smash en forme de point d'exclamation. Je signale d'ailleurs que Montaigne a comparé la conversation au jeu de paume et Wittgenstein au tennis, et que les thèmes des rencontres philosophiques de Monaco ce week-end, c'est la conversation, en même temps donc que les finales de Roland-Garros. Moi je dis, il n'y a pas de hasard. Alors si vous décidez de fuir le monde quelque temps, n'oubliez pas d'emporter une raquette avec vous et de la brandir en étendard pour signifier votre envie de discuter et de débattre. Et si vous partez simplement en camping, n'oubliez pas que la raquette peut aussi servir à égoutter les spaghettis. Ceci était un hommage à Billy Wilder et la garçonnière qui n'étaient jamais contre une petite joute verbale. La raquette, métaphore ou trivialité, on a décidément la petite mythologie qu'on mérite.
Merci beaucoup Eric Eric Libio de l'Express. Merci beaucoup, on vous retrouve évidemment vendredi prochain. La technique ce matin, Arnaud Caillé et Alice Berger. Merci à la documentation de Radio France. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Lundi, nous vous délivrerons quelques conseils de prévention pour éviter la crise cardiaque avec le docteur Fabien Guèze. Nous attendons toutes vos questions. Grand bien vous fasse, à radiofrance.com.